Bonjour à chacun et à chacune. C'est dimanche après dimanche, on se réjouit de voir des têtes nouvelles. C'est curieux, l'église locale, parce que finalement, notamment dans le message qui est apporté chaque dimanche, j'allais dire, il y a un seul message, et pourtant ça peut toucher plusieurs personnes. Certains connaissent le Seigneur depuis longtemps, d'autres sont en recherche, d'autres peut-être ne savent pas bien pourquoi ils sont là. Mais voilà. Alors à la fois, ce n'est pas surprenant parce que ça a été dit, la parole de Dieu, elle est la vérité et chacun le sait quelque part dans son cœur, même s'il ne l'a pas encore découvert. Alors, soyez chacun bienvenus et dans les pensées qui peuvent des fois agiter les cœurs, l'âme, eh bien, la parole de Dieu, elle vient trancher, poser les choses. On a eu un temps de louange merveilleux parce que la grâce de Dieu, le nom de Jésus-Christ est prononcé, laissez entrer le roi de gloire. Nous avons chanté sa fidélité, d'ailleurs, j'en profite. Vers la fin de ce message, Myriam, si vous voulez bien reprendre, qu'on reprendra ce chant. Fidèle, 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 la fidélité de Dieu. Et puis, il y a eu cette prière sur la persévérance. Ça va avec la fidélité. Ce matin, à travers toutes sortes de circonstances, j'étais amené ces derniers jours à relire de larges extraits du livre de Job. C'est pas un livre qui est, je sais pas si tous le connaissent, on va les lire, on va les lire des passages ce matin. Je ne fais insulte à personne, il se trouve devant le livre des psaumes, ça permettra d'aller le rechercher. Un livre surprenant. Et j'ai choisi de partager quelques pensées à travers certains passages de ce livre de Job. Parce que je crois qu'on a besoin de se remettre devant qui est Dieu, le tout autre, le tout autre, le tout autre. Et beaucoup je le sais, de serviteurs de Dieu, d'hommes et de femmes qui veulent vraiment le servir fidèlement, traversent nécessairement dans la marche chrétienne des moments d'incompréhension. Les paramètres sont déréglés. Et Dieu a une façon des fois particulière de nous remettre d'équerre, j'allais dire. C'est pas de prendre chacun de nos bobos et de les traiter un par un. D'un seul coup, il se présente. Il dit, voilà, je suis Dieu. Et ça règle tout un tas de problèmes. On ne sait pas comment, mais ça règle tout un tas de problèmes. Frères et sœurs, il est Dieu. Et nous, nous sommes des créatures. Et de ce coup, même en le prononçant à cet instant, j'ai l'impression que mon corps, paf, il est réaligné. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Alors, peut-être tous n'ont pas lu le livre de Job, un livre surprenant, je vous en fais un petit résumé. Job est un homme, alors il y a une expression populaire qui dit « pauvre comme Job ». C'est pas tout à fait complet cette histoire, puisque le livre de Job commence par un Job extrêmement riche, béni et plein d'abondance. Et le livre de Job se termine par un Job doublement béni et doublement riche d'abondance. Certes, au milieu, il s'est passé des choses. Et il est passé par une extrême pauvreté à tous égards, la maladie, la souffrance, etc. Donc Job est un homme dont Dieu déclare, l'Éternel déclare d'entrée de jeu, c'est un homme juste devant Dieu. Alors, ceux qui connaissent bien la Bible savent qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pourtant, Dieu, en ce temps, déclare que Job est un homme juste. C'est un homme, en tout cas, qui cherche à plaire à Dieu. On sent que toute sa vie, il cherche à plaire à Dieu. Ça, c'est incontestable. Et alors, il va se passer quelque chose dans sa vie qui dépend absolument pas de lui. Et franchement, il saura qu'à la fin, et encore, ne sera pas exactement ce qui s'est passé dans le ciel. Parce qu'il se passe des choses dans le ciel. Et ce qui s'est passé dans le ciel, hein, c'est que les fils de Dieu, nous est dit dans la parole, avaient une rencontre avec Dieu et Satan, cet ange déchu, l'ennemi de nos âmes, se présente avec eux. Alors, ne me demandez pas toutes les explications. Ce que je retiens de ce passage, c'est, je l'ai rappelé souvent ici, il y a un conseil finalement, mais ce conseil est présidé par Dieu, figurez-vous. Et c'est lui qui fixe l'ordre du jour et qui donne la parole. On ne prend pas la parole comme ça devant Dieu. Et Dieu, à un moment, s'adresse à Satan et dit « As-tu vu mon serviteur Job ? As-tu vu comment il vit, mon serviteur ?» Et Satan, vous savez, il est tordu, il dit « Ouais, il te sert, mais c'est par intérêt, tu l'as béni, alors évidemment, tout va bien, quoi. » Mais touche ne serait-ce qu'à ses richesses et tu vas voir, il va te maudire en face. Grosso modo, Dieu dit à Satan, chiche, touche à ses richesses. Et des malheurs en une seule journée, Job perd tout, non seulement ses richesses matérielles, mais aussi son épouse, ses enfants, par des catastrophes, comme il en arrive aujourd'hui. On en voit dans l'actualité, j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà Job dénué de tout. Ce qui est très touchant, il dit d'entrée de jeu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel. On chante des fois cela. Pas facile quand même. Mais Job prononce ce mot. Il a une confiance en l'Éternel. L'Éternel, nu je suis venu, nu je repartirai. Nouveau conseil devant Dieu. J'insiste là-dessus, c'est Dieu qui donne la parole. On ne fait pas comme on veut. Il s'adresse à Satan. « As-tu vu mon serviteur Job, qui a été éprouvé ?» Satan ne lâche pas le morceau, dit « Ouais. » Mais pour l'instant, tu n'as pas touché à sa santé. Je ne sais pas. La vie m'a... Ce jour, et je remercie le Seigneur, relativement épargné sur le thème de la santé physique. Mais nous avons dans la communauté des hommes, des femmes qui ont connu des épreuves au niveau de la santé. C'est pas rien. Et nous croyons que Dieu intervient et nous le voyons et nous le savons. Mais il permet des épreuves. Et il va permettre... Chez Job, des épreuves de santé terribles. Une ulcère qui vient sur tout son corps. Il nous est dit que Job se grattait avec des tessons de bouteille. C'est quand même pas terrible. Et cette nouvelle atteinte, cette fois-ci, c'est son entourage qui est touché. Le doute vient, sa femme lui dit, mais attends, t'en as pas marre? Arrête et maudit Dieu. Et il dit, mais t'es insensé, ma femme. Et lui continue. Alors, pourquoi Dieu permet une telle histoire dans la vie d'un homme juste, d'un homme qui vit bien? Et nous allons avoir 42 chapitres dans ce livre de Job, je ne vais pas tous vous les traiter ce matin, mais pendant 31 chapitres, il va y avoir un dialogue entre Job, qui est dans cette souffrance, dans cet état que je viens de vous décrire, et puis, je vais dire... trois théologiens qui, franchement, disent des choses assez justes et qui essayent d'expliquer à Job sa situation, mais finalement n'y parviennent pas. Pendant 31 chapitres. Et Job va se débattre là-dedans. Et on va avoir ce combat. Il ne comprend pas. Il discute avec Dieu. Je vais simplement, après cette introduction, lire la fin. Les dernières paroles de Job, parce qu'après, il va se taire. Il est à bout. Et Dieu va lui parler. Dans un premier temps, par un homme, Élihu, une vraie figure du Saint-Esprit, et dans un deuxième temps, Dieu lui-même va se présenter à lui. Alors, nous allons lire dans Job 31, avec le contexte que je vous ai donné. Souvenez-vous que Job est un homme juste, qui a le désir de plaire à Dieu, qui n'a pas commis des péchés abominables. Il n'a pas eu une vie de débauche. Il a même prié pour ses enfants parce que il avait des doutes. C'était vraiment quelqu'un qui voulait, qui avait la crainte de Dieu. Et vraiment, il a fait tout ce qui était possible pour plaire à Dieu, pour être juste devant lui. Alors nous allons lire dans le chapitre 31, les versets 1 à 23 déjà. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait, que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur et de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé aussi, lui le pauvre? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Je ne lis pas tout le chapitre est de la même veine. Quand on lit un tel texte, on se dit, mais quelle conscience affûtée, éclairée, scrupuleuse. Job désire plaire à Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Mais il connaît mal Dieu. Ce verset nous montre, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Et du coup, il se met dans une position où il va discuter avec Dieu. Jean-François nous a souligné quelque chose concernant la culpabilité. Le péché qui a touché toute l'humanité déclenche la culpabilité. C'est un fait. C'est une loi spirituelle. Tous les travaux de psychologie, de psychanalyse ne pourront rien à ça. Le péché entraîne chez l'homme la culpabilité. Ce combat, ce tourment, pourquoi? Parce que l'homme sait qu'il a péché. Et l'homme a au fond de lui la pensée de l'éternité et il a ce désir de justice. Et donc il va essayer de se justifier par toutes sortes de moyens, soit par des œuvres, soit, comme ça nous a été dit, et là c'est le cas ici. Regardez ce que fait Job. Il commence par dire, si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Il dit à Dieu, je suis juste. Je suis juste. Grosso modo, il dit à Dieu, si tu me pèses dans des balances justes, ça va loin d'ailleurs. Vous voyez, dans ce combat, mais dans le fond, Dieu, est-ce que tes balances sont justes? Ça va jusque-là. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé de dire, mais pourquoi, à moi, c'est pas juste? Bien sûr qu'il y a des cris de cœur. Et bien sûr qu'il y a, dans le monde, les uns et les autres, nous avons pu vivre des situations particulièrement injustes, y compris aux yeux de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est sûr. Mais vous savez pourquoi? Parce que tout ça, c'est les conséquences du péché. Et Dieu veut nous amener à cela. Et puis, il y a des situations que nous considérons comme injustes parce que ça nous touche. Frère disait tout à l'heure, on regarde tellement à soi qu'on est très sensible à l'injustice dont on est victime, ce qui occulte celle que l'on commet. Que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Alors beaucoup ici disent, mais Job ne connaît pas Dieu. Ben oui, il ne connaît pas la grâce. Il ne sait pas que cette question de la justice, elle est réglée en Jésus-Christ. On verra un passage qui l'annonce. Mais il y a là, dans ce livre, le combat de l'homme. Il y a notre combat. Clairement, avant que nous connaissions Dieu, et encore après, parfois. Le deuxième point, toujours dans ce combat pour se justifier, pour être clean, il va jusqu'à, après avoir dit, mais je suis juste, si tu me pèses dans les balances justes, tu vas me trouver juste. Et intègre. Et pourtant, il développe une quinzaine de situations. Il dit, mais si j'ai fait ça, si j'ai pensé, et il énonce les peines, il énonce le barème des peines que Jean-François nous a donné tout à l'heure. Si mon cœur a été séduit par une femme, il donne la sanction. Que ma femme tourne la meule pour un autre, c'est-à-dire qu'elle soit donnée à un autre. Ça va plus loin. Et que d'autres la déshonorent. C'est-à-dire qu'il se fait juge lui-même. Et il pose lui-même le barème des infractions à la loi de Dieu, qui n'a pas été énoncée d'ailleurs encore à cette époque-là. Et ça, c'est le travail que provoque la culpabilité dans le cœur de l'homme qui n'a pas encore rencontré et trouvé la justice de Dieu. On a besoin, on sait qu'avec une faute, il y a une sanction. Mes frères et sœurs, ce n'est pas à nous de la fixer. Et nous le savons, parce qu'elle a été portée. Toutes ces peines, toutes ces sanctions ont été portées par Jésus-Christ à la croix. Mais je crois que c'est important qu'on reconnaisse ce qui peut-être se passe dans des cœurs. Il y a ce combat, il est inévitable. C'est là la conséquence du péché tant que la rencontre n'est pas faite. Ce chapitre 31, c'est effectivement, comme le dit le texte d'ailleurs au verset 40, il continue d'énoncer tout ce qu'il aurait éventuellement pu faire après avoir dit qu'il était juste. On voit bien que ça ne règle pas le problème. Le dernier argument. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croise des épines au lieu de froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Et il y a ce verset, fin des paroles de Job. Job a terminé sa plaidoirie, j'allais dire sans succès. Il n'est toujours pas en paix. Et là, nous allons voir l'intervention d'un homme, Élihu. Après, trois hommes qui ont parlé à Job, lui ont expliqué des choses. Et je vous invite à lire le livre de Job, c'est extrêmement riche. Il faut bien voir que ces trois hommes, les amis de Job, ont dit des paroles justes à Job, dans l'ensemble. Où est le problème? C'est qu'ils n'ont, ils l'ont pas dit, ils n'ont pas dit ces paroles au bon moment. À un frère, à un homme qui est dans la souffrance, dans le dénuement complet, la maladie, on n'assène pas des leçons de morale par 10 chapitres. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est le reproche que Dieu fera à ces hommes, ces théologiens parfaits, en dehors de ça, parce qu'ils n'ont pas parlé au bon moment. Et là, nous allons voir Élihu, qui lui va parler au bon moment. Il a laissé, il va le dire, je vous fais le texte rapidement, il va dire, j'ai laissé parler les autres, en plus ils étaient plus âgés que moi, et moi qui suis jeune, et il y a toute une image qui nous conduit à penser que Job est vraiment une image du Saint-Esprit, quelque chose qui bouillonne en lui, et on voit qu'il parle de la part de Dieu, et au temps convenable. Et là, il va apporter des paroles à Job, des paroles tranchantes, comme l'est la parole de Dieu, mais qui vont vraiment conduire à la libération. Nous allons lire dans Job, chapitre 33, les versets 1 à 12. C'est Élihu, donc, qui parle à Job cette fois-ci. Chapitre 32, il se présente et il dit pourquoi il va parler, comment ça bouillonne en lui. Et chapitre 33, il dit ceci, « Maintenant donc Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais, c'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable, j'ai été comme toi formé de la boue. Aussi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne serait accablé. Mais tu as dit à mes oreilles, j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. » Voilà ce que Job a prononcé. Et voilà ce qu'il lui dit. « Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Dieu est plus grand que l'homme. N'oublions pas cette évidence. C'est là que nous trouverons la paix. Dieu est plus grand que l'homme. Frères et sœurs, le monde a complètement oublié cela. Dieu est plus grand que l'homme. Il est le Créateur. Nous sommes les créatures. Dieu est plus grand que l'homme. Et l'alliance qui nous sauve, l'alliance en Jésus-Christ, frères et sœurs, elle est à l'initiative de Dieu. Elle est à l'initiative de Dieu. C'est lui, rien que lui, qui a décidé de l'alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Le prix est intégralement payé par celui qui nous donne la vie, la respiration et l'air. Et nous sommes invités à craindre Dieu, à l'adorer aussi dans sa majesté, sa domination sur toute chose, comme le tout autre. Dieu n'est pas notre pote. Dieu est Dieu. Nous sommes des créatures créées à son image et à sa ressemblance. Mais nous ne sommes ni Dieu, ni des dieux, car il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Job, encore au chapitre 36. Nous allons lire une partie de ce chapitre. Toujours Élihu qui parle. Élihu continua et dit, « Attends un peu et je vais poursuivre. » Vous voyez, on est dans cette situation. Élihu est en train de dire à Job, « Réalise ce que tu es en train de faire. Tu es en train de discuter avec Dieu. Alors tu veux discuter, discutons. » Je ne vais pas avoir le temps ce matin, mais quelques chapitres après, c'est Dieu lui-même qui va dire à Job, tu veux parler? Eh bien écoute, je vais t'interroger et toi tu vas me répondre. Job 36, et lui continua et dit, attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Frères et sœurs, est-ce que parfois nous avons eu des doutes sur la justice de Dieu? Je voudrais que ce matin on reparte. Dieu est juste dans toutes ses voies. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que quelqu'un non plus reparte en disant, mais avec la révolte au cœur. Mais mon vœu ce matin, c'est si certains disent, c'est pas possible, c'est pas juste, qu'ils fassent comme Job va faire à la fin, capituler. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence, il ne laisse pas vivre le méchant, il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus le juste, il les place sur des trônes avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Écoutons ce passage. Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère quand ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Je reviendrai sur ce verset. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme des débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Peut-être des clés de compréhension dans nos vies. Frères et sœurs, notre foi en Jésus-Christ ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de souffrance dans nos vies. Dieu nous invite à comprendre. C'est un sujet délicat, cette souffrance. Là encore, le livre de Job, au chapitre 5, nous dit que la souffrance ne naît pas de la poussière. Et l'homme qui vit, je vais vous le lire, parce que je pense que ça, c'est des paroles qui peuvent paradoxalement nous faire du bien. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Comprenons bien. Peut-être certains ont-ils entendu que la souffrance nous faisait acquérir un quelconque mérite. Non. La souffrance, elle est dans le monde, conséquence générale du péché. Je ne suis pas en train de lire là, tu souffres mon ami, c'est parce que tu as péché. Oui, quelque part, mais c'est beaucoup plus général que ça. Mais il faut que nous comprenions ces choses. Et c'est Dieu qui tient tout dans sa main et qui permet par moments des souffrances pour nous avertir, pour nous parler, pour nous attirer à lui. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est pas facile de parler cette chose, mais je crois qu'il y a quelque chose de profond dans les vies. Parce que on a raison de proclamer le salut, la vie et la résurrection, et je terminerai par cela, parce que ce soit bien clair. Mais des fois, ça passe par des chemins qu'on ne comprend pas. Des chemins qu'on ne comprend pas. Qu'on soit pas encore à Christ ou qu'on soit à Christ. Il y a des chemins. Croyez-vous que Job, Dieu avait les regards sur Job, ô combien il avait les regards sur son serviteur, mais il a permis qu'il soit humilié par la souffrance. Dieu avait les regards sur son fils bien-aimé, mais il a permis Gethsémané. Il a permis le scandale de la croix. Frères et sœurs, ces choses nous dépassent. Nous dépassent, et il faut que nos raisonnements s'effondrent devant la souveraineté de Dieu et reconnaître qu'à travers cela, Il nous aime, il nous attire, parce que l'enjeu, c'est l'éternité. Parce que l'enjeu, c'est l'éternité. Dieu est puissant, il ne rejette personne. Il est dit, il y a ce verset qui dit, les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Le psaume 107 nous dit, nous dépeint quatre situations, ceux qui étaient dans l'ignorance, ceux qui étaient dans les ténèbres parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu, ceux qui par leurs iniquités se sont mis dans des situations impossibles, ceux qui enfin servent le Seigneur et descendent sur les eaux des nations pour servir, peuvent être encore brinque-ballés dans des situations pas possibles. Mais dans ce psaume 107, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de toutes leurs angoisses. L'impie, lui, ne crie pas à l'Éternel. Il poursuit dans sa révolte. Et nous voyons dans l'Apocalypse, et nous le vivons dans ces temps, ils ne se repentirent point, et ils blasphémèrent contre Dieu. L'endurcissement. Frères et sœurs, quelle que soit notre situation, que nous connaissions le Seigneur ou pas, si nous traversons des difficultés, crions à l'Éternel, reconnaissons notre détresse et il répond et il délivre de toutes les angoisses. Amen. 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 De toutes les angoisses. Mais ne réagissons pas comme les impies. Élie va dire à un moment, je ne lis pas les textes, il va dire le problème, Job. C'est que tu te défends comme un impie. C'est très dur. Job était un homme juste. Il n'avait pas commis de gros péchés. Ça, c'est un sujet avec lequel nous avons des combats. Mais cet homme, il n'est peut-être pas chrétien, mais il est juste, etc. D'accord. Frères et sœurs, pas un n'est juste. Et la propre justice est la chose la plus compliquée. Pas pour Dieu, mais en tout cas pour l'homme. Parce que quand on n'a pas fait de crime, quand on n'a pas volé, violé, on peut finir par penser qu'on est juste. Et Dieu, je ne dis pas qu'il fait comme il a fait à Job, mais c'est quand même ce sujet qu'il a traité là. Ce sujet qu'il a traité. Job comme les autres. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi à ce moment? On est avant la loi et on est avant Jésus-Christ. Pourtant, au cœur de ce livre, dans le chapitre 33, le salut est annoncé. Le salut est annoncé. C'est peut-être un des plus anciens livres de la Bible et le salut est annoncé. Ce miracle de la nouvelle naissance est annoncé. J'ai lu un premier passage et nous allons poursuivre. Je reprends à partir du verset 12 en Job 33. Je te répondrai qu'en cela, Job, tu n'as pas raison. Hein? Il conteste avec Dieu et finalement il accuse Dieu. Il est avec Dieu comme réagirait un homme. Il pense que Dieu réagit comme un homme. Ça me fait penser à ce verset qui dit que Dieu soit tenu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Ce n'est pas du côté de Dieu qu'il y a le mensonge. Dieu parle cependant, verset 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et n'en y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Par la douleur aussi, ce thème est repris. Aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Dieu a trouvé une rançon pour l'homme dans ses tourments, pour l'homme de Proverbe 32, dont les os se desséchaient parce qu'il était tourmenté par son péché. Dieu a trouvé une rançon pour Job, tourmenté dans son débat de propre juste. Il a trouvé une rançon, et nous la connaissons, c'est Jésus-Christ. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice, lui est favorable, lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocent. Ça vous parle rien à vous qui êtes nés de nouveau? Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. N'appelons pas sur nous la sanction que nous méritons, elle a été portée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. N'appelons pas sur nous, quittons ces choses. Je me le dis, quittons ces choses. Ce n'est pas à nous de fixer le barème. Il a été fixé par le Dieu Tout-Puissant dans sa souveraineté. Et ce tarif, ça a été la mort de son Fils bien-aimé. C'est lui qui a fixé le barème de la rançon. N'ajoutons rien, ne nous occupons pas de cela. Ce n'est pas notre affaire. Il l'a réglé et payé le prix fort. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. Frères et sœurs, mon ami qui est là ce matin, qui est peut-être encore dans la révolte, Dieu fait ça pour toi 2-3 fois avec l'homme, 2 ou 3 fois dans la vie et plus. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Il permet des circonstances qui te paraissent terribles. Sache que c'est parce qu'il veut que tu viennes enfin à lui et que dans la détresse, tu cries. Et qu'il vienne te délivrer. Parce qu'il a trouvé une rançon. Parce qu'il a trouvé une rançon. Je vais m'arrêter. Mais enfin, pas tout à fait. Je voudrais, avec... Mon épouse, une fois par semaine, on se prend un temps pour regarder un peu les actualités à la télé. C'est suffisant, hein, parce que... Et hier, je me suis dit, on pourrait regarder. J'étais touché, je ne vais pas tout développer. Mais quand, vous savez, quand on ne regarde pas très, très souvent, puis vous regardez les titres, vous vous dites, ça avance très, très vite. Très, très vite. Il y avait des problèmes de l'homophobie. Enfin bon, ça dépend comment on prend le sujet. Il y avait la sécheresse. Ça m'a touché. On le vit. Là où on est, je vois bien que ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas tondu. Il y avait la sécheresse. Je ne sais pas si certains ont vu. Je ne bâtis pas, vous l'avez noté, mes prédications sur la télé. Mais il y avait la sécheresse quand même. Et c'était intéressant ce contraste entre la sécheresse et ce qui s'est passé, je crois, dans le Var, là, où il est tombé, je sais pas, 600 mm en une heure. Le jour, il est tombé 60 mm en une heure, c'est déjà impressionnant, 600 mm en une heure. Job nous parle. Frères et sœurs, ce n'est pas des interprétations fumeuses que je suis en train de vous livrer, je vais vous lire quelques passages. Job 37, toujours sur la souveraineté de Dieu, qui est le patron ? Job 37, verset 9 à 13. Par son souffle, l'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Intéressant. Vous savez que quand il y a les courants chauds, courants froids, ça fait des choses bizarres. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leurs évolutions varient selon ses desseins, selon ses plans, pour l'accomplissement de tout ce qu'il ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. C'est Dieu. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, je ne vais pas faire un truc binaire, il est en train de punir. Dieu parle. Dieu parle. La révolution varie selon ses desseins. Au verset, je crois encore, 31, 29, on va lire un petit peu avant. 26, Job 36, 26, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau. Disons ça tranquillement, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée ? Vous avez réfléchi à ces questions ? Des nuages. Ces masses, ça pèse des tonnes et ça tient en altitude. Les scientifiques savent des choses, mais Dieu en a parlé avant. Les nuages la laissent couler, la répandent sur la foule des hommes, et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente ? Voici, il étend autour de lui sa lumière, il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Les deux choses. Il fait tomber sa pluie sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Mais comprenons que Dieu tient tout dans sa main. Et nous qui croyons, et c'est un des signes ça, de la nouvelle naissance, c'est que tout ce que l'on voit d'un seul coup nous parle autrement. C'est Dieu qui parle. Frères et sœurs, Dieu parle. Mon ami qui ne croit pas ce matin, Dieu te parle. Dieu te parle. Je ne veux pas terminer ce message. Certains, je ne voudrais pas que certains repartent avec l'image d'un Dieu comme Job l'a parfois eu. Je sais, frères et sœurs, en qui j'ai cru. Je sais que ce combat avec la culpabilité, il n'a pu être réglé que lorsque devant Dieu, j'ai reconnu mon péché, que j'ai abandonné. Et cela, ce n'est pas une fois. Parce que son sacrifice unique, celui en Jésus-Christ, est tout suffisant et c'est le seul qui est suffisant. Il est mort. C'est ainsi qu'a été manifesté l'amour de Dieu puissant pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et maintenant nous vivons pour lui. Frères et sœurs, si nous nous écartons de cette voie, nous retombons dans des choses compliquées. Vivons pour lui. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Alors nous pouvons dire, oui, je le sais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et Dieu est pour nous. Le Dieu, le don de son Fils bien-aimé est notre salut. Ne nous justifions pas comme des impies. Ne nous justifions pas d'ailleurs du tout comme des impies. Dieu est notre justice. Recevons sa justice. Il a été fait pour nous justice. J'avais à cœur pour des amis qui peut-être sont là ce matin, pour la première fois, ils sont surpris. La révolte est peut-être là, par rapport à une souffrance, à une injustice, et peut-être le message que j'ai donné, dire c'est un peu chaud son affaire. Une injustice à vos yeux est peut-être une injustice réelle. Les conséquences du péché et de la désobéissance de nos pères et de la nôtre conduisent à cela. Je veux vous dire ce matin que Dieu n'afflige pas volontiers les hommes, ces créatures qu'il aime. Il veut parler, nous attirer à lui et que les luttes cessent. La lutte peut cesser ce matin dans ta vie. La lutte peut cesser ce matin dans ta vie. Le combat est vain. Dieu est Dieu. Reconnais-le comme tel, et il te révélera ce qu'est son amour qu'il a manifesté en donnant Jésus-Christ. pour te libérer de ton péché et de tes luttes intérieures. Je vous invite à prier, j'invite l'équipe de louanges à proclamer, je crois que c'est important que nous proclamions, la fidélité de Dieu. Ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu, ton Créateur, qui veut te sauver, te donner la vie éternelle et partager l'éternité avec toi. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu es Dieu. Et merci Seigneur pour ta parole qui nous amène à fléchir le genou. Père, je te prie ce matin que la parole qui a été annoncée fasse maintenant taire toute révolte et apporte, Seigneur, la guérison par la présentation de qui tu es. Tu es le Tout-Puissant, mais le Miséricordieux. Le Tout-Puissant est en même temps si proche de chacun de nous, au point d'avoir envoyé ton Fils dans une chair semblable à la nôtre pour manifester ton amour, ta puissance et le plan de rédemption que tu as conçu de toute éternité et que tu as accompli en Jésus-Christ. Que ces paroles descendent et que ta parole descende dans les cœurs, celle qui peut sauver les âmes. Amen.